Les archives du crime, une émission de Jean-Michel Armand sur Radio Bulle. Bonjour Jean-Michel Armand.
Bonjour Ophélie.
Nous restons cette semaine encore dans notre département pour évoquer deux histoires de nature fort différentes. L'une sanglante, nous n'y échappons pas, et l'autre pas. C'est une première, dites donc, dans cette émission.
Eh oui, Ophélie, deux histoires courtes, la première venant s'emboîter, si on peut dire les choses ainsi, dans une histoire que je vous ai déjà racontée il y a à peu près 2 années de cela, je crois, l'affaire Alice Crespy.
Alors ce nom me dit effectivement quelque chose, mais vous pouvez rapidement nous rafraîchir la mémoire.
Eh bien volontiers. Alice Crespy fut au début du siècle, le 20e, une romancière et une poétesse qui eut son petit moment de gloire. Pensez donc, elle fut publiée dans les revues et journaux de Paris.
Je suppose que ce n'est pas cette gloire littéraire éphémère qui l'a fait passer à la postérité. Postérité judiciaire, je suppose.
Effectivement, car notre plumitive est compromise dans le meurtre, fut compromise dans le meurtre de son amant, ce qui pourrait être assez banal en soi si ce dernier n'avait été prêtre, l'abbé Chassin n'étant autre que le vicaire de l'église Saint-Hilaire, le confesseur d'Alice Crespy et depuis plusieurs années déjà l'amant de celle qu'on appellerait aujourd'hui une cougar. Tant elle appréciait, semble-t-il, la compagnie des jeunes et beaux garçons, ce qui était le cas de l'abbé Chassin. Confondue, elle est incarcérée à la maison d'arrêt de la rue Montaigne. Et c'est à ce moment précis que va apparaître notre homme du jour.
Et l'autre affaire alors ?
Eh bien, elle fut aussi qualifiée de crime, mais au sens judiciaire cette fois du terme, c'est-à-dire une infraction vous renvoyant devant une cour d'assises. Mais celle-ci ne fit pas couler le sang. Tout juste de la salive.
Ah, je ne comprends pas.
Eh bien, nous allons voir que sous l'Empire, le Second, ou plus avant, aux marches de ce Second Empire, très précisément en 1850, il suffisait de manifester des opinions républicaines pour s'attirer les pires ennuis judiciaires.
Un crime d'opinion, donc ?
C'est tout à fait cela, Ophélie, une histoire que ferait bien de méditer celles et ceux qui qualifient le président de la République de dictateur, d'assassin, comme nous l'avons entendu dernièrement, et ce de façon d'autant plus relâchée qu'il ne risque absolument rien. On verra donc qu'à d'autres époques, celle notamment de ce second empire qui va commencer, Louis-Napoléon Bonaparte, n'étant encore que le prince président, donc nous étions quand même en République, on risquait de lourdes condamnations à proclamer ce type de conviction. C'est ce qu'apprendront à leurs dépens de jeunes conscrits, comme nous allons le voir tout de suite. Acheter un homme en qualité de remplaçant par celui qui, tombé au sort, avait tiré le mauvais numéro, a constitué durant une bonne partie du 19e siècle une loterie cruelle. Une chance pour des jeunes gens nantis et une source de revenus pour ceux qui n'avaient pas d'autre choix que de se vendre.
Et combien pouvait se racheter un mauvais numéro ?
Eh bien, le coût du remplacement variait selon les circonstances et des rumeurs de gare nombreux encore à cette époque et de troubles sociaux. La moyenne était de 1200 francs avec une hausse possible au moment de la guerre de Crimée, donc en 1855, où la somme de rachat se montait à 2200 francs. Souvenons-nous qu'en 1850, une journée de travail d'un ouvrier était payée 1 franc seulement. La conscription est donc institutionnalisée en France à partir de 1798 et sous le consulat. Mais de 1804 à 1903, les appelés sont convoqués pour connaître leur affectation à l'issue d'un tirage au sort. Dans un premier temps, le tirage détermine qui part et qui ne part pas. Les numéros les plus bas étant réputés bons pour le service. En 1872, la fonction du tirage est changée, on la souhaite plus égalitaire. Les numéros les plus bas font un service de 5 années, les autres d'un an seulement.
Vous parlez d'une égalité.
Ben oui, effectivement. Et en 1889, la durée du service est fixée pour 3 années pour tous cette fois. Mais on n'en a pas encore terminé avec cette loterie du destin. Les numéros servant désormais à déterminer non plus la temporalité du service, mais l'arme d'affectation. Le tirage au sort, comme on l'appelait, était donc un rituel annuel pour lequel tous les jeunes gens ayant atteint leur 20e année se retrouvaient à leur chef-lieu de canton. Quand on sait qu'entre 1798 et 1872, le service militaire obligatoire, tel qu'il fut institué par la loi Jourdan de 1798, pouvait durer jusqu'à 7 années. On mesure alors qu'il régnait ce jour-là une certaine fébrilité parmi les garçons concernés. Ceux d'entre eux qui avaient tiré un bon numéro se réjouissaient. Quant aux autres, ils devaient soit se résigner à partir, soit, s'ils en avaient les moyens, trouver un remplaçant dûment rétribué à ses fins. Le 1er mars 1850, les jeunes gens du canton se retrouvent donc dans la grande salle de la mairie de Sainte-Livrade pour le tirage au sort des conscrits de la classe 1849. L'ambiance est tendue et tous regardent maintenant le jeune Pierre Lacoste, sabotier de profession, plonger fébrilement la main dans l'urne et remonter un mauvais numéro. À peine remis de ce coup du sort, que le jeune homme s'écrie brutalement « Vive la République démocratique et sociale! Vive la République !» Cri timidement repris par quelques voix noyées dans l'anonymat de cette foule compacte. Du coin où il était planté pour surveiller ses opérations, souvent entrecoupées de chahis, jaillit le lieutenant de gendarmerie Jean Ducuron.
Alors ça, c'est un nom qui ne s'invente pas.
En effet, l'officier donc Ducuron saisit le vociférant au col et le jette brutalement au sol. Aussitôt, la foule des jeunes gens font cercle autour de Pierre Lacoste qui glapit comme un forcené pour prévenir une possible arrestation. Jugeant le rapport de force peu favorable, le Pandore estime plus prudent de rompre là l'affrontement, non sans avoir expulsé le contrevenant, et promettre menaçant que l'affaire ne s'arrêtera pas là. Il quitte les lieux sous une bordée de ladzi et de noms d'oiseaux. Le représentant de la sous-préfecture tente péniblement de reprendre le cours des tirages quand les deux suivants, Jean Bénèche et Jean Chassou, tirent eux aussi de mauvais numéros. Immédiatement, il s'égosille. Vive le Drurolin ! Vive la sociale !
Le Drurolin, celui qu'on voit sur les plaques de rue.
Ben exactement, Alexandre Le Drurolin, avocat, chef de file des Républicains progressistes. Il sera l'infatigable animateur des campagnes dites des banquets qui aboutira à la révolution de 1848. La République sociale est apparue sur la scène de la lutte politique dans ces années 1848-1850 contre la République bourgeoise qui avait succédé à la monarchie. L'officier écrira dans son rapport qu'il a la ferme conviction que ces jeunes gens s'étaient concertés pour faire tapage, d'autant plus qu'au même moment, des chants patriotiques s'étaient fait entendre. Ayant dépêché deux gendarmes sur place, le chanteur a été arrêté et les chants ont cessé. L'injonction s'est terminée sans autre désordre. Signé le lieutenant de gendarmerie Ducuron. L'officier, dans le même rapport, se dit aussi outré, car ce n'est pas la première fois que de pareilles provocations ont lieu dans la commune. Pour lui, les raisons renvoient notamment, je cite, au laxisme dont font preuve les élus municipaux, dont les jeunes gens profitent pour organiser leurs démonstrations qui produisent un très mauvais effet sur la population laborieuse et, elle, respectueuse des lois. Pour ce qui concerne le jeune Lacoste, dit encore le gendarme, je l'aurais volontiers arrêté si je n'eusse point craint, il écrit comme ça le lettré gendarme, je n'eusse point craint, dit-il, d'incidents fâcheux avec ce groupe de jeunes gens. Son rapport bouclé, il le transmet sans tarder au procureur de la République de Villeneuve d'Agen, c'est le nom de la commune à cette époque, le procureur Fleury Maquet, lequel saisit un juge d'instruction du nom de Bonhomme, là non plus on ne peut pas l'inventer, et le 27 avril 1850, les magistrats de la chambre des mises en accusation près de la cour d'appel de la ville, les conseillers Lébé, Donnevic et Delbourg, examinent les éléments présentés par le procureur général et décident de renvoyer le jeune homme devant la cour d'assises du département au motif que les éléments de cris séditieux proférés publiquement constituent une attaque de l'institution républicaine ainsi que de la Constitution, délit réprimé par les lois du 18 mai 1819, du 23 mars 1822 et enfin par celle du 11 avril 1848. Le 10 juin de cette même année, l'infortuné Pierre Lacoste entre dans le box des accusés de la cour d'assises. Sur les conseils de son avocat, il fait profil bas, n'ayant rien non plus d'un meneur révolutionnaire. Les faits sont reconnus et les débats sont brefs. Magistrats et jurés ne semblent pas convaincus d'avoir devant eux un dangereux agitateur, sans plus qu'un pauvre gamin ulcéré ce jour-là de devoir perdre sa jeunesse sous l'uniforme pendant tant d'années. Après une très brève délibération, le jury répond non à la question de savoir si les cris du jeune homme constituaient une attaque contre la République et ses institutions. À cette même session d'assises, on doit également juger un autre crieur. Il s'appelle Jean Galban, il est ouvrier coutelier et lors des cérémonies du 24 février 1850, en l'honneur de l'avènement de la République, cérémonie célébrée à l'église de Saint-Ivrade, et alors que la musique des sapeurs-pompiers avait entamé les chants patriotiques, il s'était écrié brutalement « Vive la République sociale et démocratique ! À bas le tyran ! À bas le tyran !» Il sera relaxé pour la première partie de sa diatribe, mais l'insulte au président Louis-Napoléon Bonaparte lui vaudra 15 jours de prison et 25 francs d'amende. Allez, envoyez le banc.
Vous écoutez les archives du crime sur Radio Bulle 93.6 avec notre ami Jean-Michel Armand et on continue avec une deuxième histoire, notre gendarme poète.
Gendarme poète et assassin, Ophélie. Si l'affaire Alice Crespy est, comme nous venons de le rappeler, pour le moins piquante dans ses rocambolesques avatars, ce que l'on sait probablement moins, c'est que l'auteur du Double Parfum, ce poème fleuve de plus de 500 vers qu'elle avait écrit pour son amant Soutane, était alors incarcéré à la maison d'arrêt d'Agen. Et elle eut, à ce moment-là, un supporter compatissant et à ce point fasciné qui lui adressa le 20 février 1913 un long poème de 76 vers écrit en gascon. Père Alice, pour Alice, dans un style, convenons-en, assez empoulé, mais d'un genre qui avait encore à cette époque ses adhérents, qu'on en juge. L'étoile du bonheur, encore amie, va luire pour toi, elle te gardera du rocher qui veut franchir ta nacelle secouée, et tu passeras l'écueil qui tue quelquefois. Ma muse t'a choisi une fleur qui puisse, dans la maison où tu ne peux en trouver, adoucir ta peine et sur ton cœur meurtri, laisser un peu de bonheur si elle ne peut te consoler. Certes, ce n'est pas du Verlaine, mais ce madrigal enamouré est signé Pierre Dema, Mestre Engesabe. C'est touchant d'envoyer une fleur littéraire à une sœur en poésie, lui qui sait plus que tout autre encore qu'il n'en pousse guère derrière les murs de l'hôtel pénitentiaire de la rue Montaigne. Il le sait doublement. D'abord, en sa qualité de gendarme qu'il fut, et plus encore, parce qu'il y fit quelques séjours comme détenu. Car notre maître en gai savoir manie aussi bien la plume que le surin. Le doux poète est en effet un être atrabilaire et susceptible qui ne supporte pas qu'on puisse résister à son charme et à ses élans amoureux. En mai 1910, au bal communal de Lusignan-Petit, n'a-t-il pas porté des coups de couteau à une jeune fille qui repoussait ses avances? Fort heureusement, sa danseuse en réchappa, mais le gendarme fut traduit en cour d'assises qui, faute de preuves probantes, préféra l'acquitter. La gendarmerie nationale, peu sensible à ses vers de Mirliton et à ses dansées de couteau, en profita pour lui signifier son congé définitif. Était-il plus mauvais amant que poète? Quoi qu'il en soit, dans les deux années qui suivirent, il subit encore deux condamnations à 6 mois d'emprisonnement pour coups et blessures, toujours à l'encontre de ses conquêtes féminines. Que voulez-vous ? Il y a de ces hommes qui ne supportent pas la frustration. C'est ainsi que le dimanche 14 septembre 1913, Pierre Dema se présente au poste de police de l'hôtel de ville pour y déclarer qu'il venait de tuer sa maîtresse, une certaine veuve Falbé, 51 ans. dans une chambre qu'il loue au numéro 5 de la rue Orliassi. Il le dit avec cette assurance détachée de ceux qui ne sont guère affectés par de semblables circonstances. En bon gendarme qu'il fût, il déclare se tenir à la disposition de la justice. Sur place, les policiers découvrent en effet une femme gisant sur le plancher, le buste appuyé sur une chaise renversée. Une large plaque de sang s'est répandue tout autour de son corps. En même temps que le substitut du procureur accouru, arrive sur place le docteur Richard, médecin légiste, qui ne peut que constater la mort de la malheureuse femme. Un coup de couteau porté perpendiculairement au cou lui a littéralement transpercé la gorge de part en part. L'autopsie, réalisée le lendemain, révèle que la carotide et la jugulaire ont été sectionnées, entraînant la mort quasi instantanée de la victime. Les policiers n'eurent qu'à se baisser pour retrouver sous une commode un couteau dont la lame longue de 20 cm s'est solidement emboîtée dans un manche incurvé. Un couteau corse. Au magistrat instructeur, Déma raconte que la veille, il avait effectivement rendez-vous avec sa maîtresse dans les jardins du gravier et que l'entretien ne s'était pas bien passé. « Comment cela, pas bien passé ?» questionne le juge. Déma est bien obligé de reconnaître qu'il a couvert de reproches sa maîtresse sur de supposées infidélités, ce dont elle se serait défendue. Rompant la discussion, la veuve Falbé tourne alors les talons, agacée, apparemment très fâchée. Comme il va le déclarer, il la suit alors à bonne distance, persuadée que si elle réagit de la sorte, c'est qu'elle a beaucoup à se reprocher. Le fait du reste qu'elle ne prenne pas la direction de son domicile renforce encore Déma dans ses suspicions, et ce d'autant qu'un homme, semble s'approcher d'elle dans une attitude qu'il juge empressée. Submergé, dira-t-il, par la jalousie, il pense un court instant aller en découdre avec ce rival. Mais se ravisant, serrant les poings, il renonce et préfère attendre le lendemain, jour habituel en semaine de ses rendez-vous galants avec sa maîtresse. Comme convenu, la dame, pas rancunière, arrive rue Orliassi, mais son amant n'y est pas. Comme elle a la clé, elle entre, s'installe sur le lit et attend. Déma arrive une demi-heure après. De suite, il l'accable de nouveaux reproches, lui faisant grief de ses infidélités et la somme de nommer l'homme avec lequel elle se trouvait la veille. « C'est ton amant ! À vous ! Mais à vous donc » hurle-t-il tel un possédé. On imagine que, sans doute, la dame se récrie et proteste encore une fois de sa bonne conduite. Peut-être veut-elle lui donner des gages de son attachement, sinon de son amour. Rasséréné, le gendarme poète s'apaise et réclame alors des faveurs. L'expression est de lui et sera consignée ainsi dans le procès-verbal de première comparution. Mais la dame s'y refuse énergiquement et lui signifie que cette fois, elle est définitivement lasse de ces scènes de jalousie. Sa décision est prise, elle veut rompre toute relation. Maintenant, c'est fini. Tu entends bien, c'est fini entre nous. Qu'il soit face au commissaire Collard ou au juge d'instruction, Déma ne se dérobe pas ses responsabilités. Il ne nie pas le crime et tente à peine d'y trouver des justifications. Ah, jalousie, que de bêtises on a pu commettre en ton nom. L'aurait-il voulu que c'eût été peine perdue, puisque les inspecteurs ont saisi à son domicile un petit agenda de cuir rouge sur lequel figurent de bien étranges annotations. Au jour du rendez-vous fatal, Déma avait noté qu'il fallait faire l'affaire de la veuve. Ainsi, le projet d'assassinat s'étale-t-il d'une écriture légèrement tremblée dans le calepin d'accusé. L'affaire est pliée, et donc la sanction ne durera que le temps de consigner tout cela noir sur blanc. Quand le 28 mai 1914, Déma pénètre dans le box des accusés de la cour d'assises d'Agen, c'est un homme dans la force de l'âge, trapu, une figure barrée par une forte moustache roux foncé qui se présente, écrit le chroniqueur judiciaire de la petite Gironde. Comme l'œil est petit en raison d'une forte myopie, le regard est glauque, reprend sans grande nuance celui de la dépêche. Après la lecture de l'acte d'accusation, le président Berry donne quelques éléments biographiques de l'ex-gendarme. On apprend alors que Déma était entré dans la garde républicaine en 1885, après avoir fait son service militaire en Corse, en qualité d'ouvrier d'artillerie. Il y restera en service un peu plus de 6 années, puis demandera à être versé dans la gendarmerie. Il est affecté à la brigade de Corte. De cette période naîtra sa passion pour la coutellerie insulaire. En 1897, il demande une retraite anticipée au prorata de ses années de service actif et s'installe à Agen. Dans le département, il fait des foires et des marchés avec son commerce de couteaux corses. Durant l'hiver, quand les affaires déclinent, il se fait tour à tour journalier, penseur de chevaux et poète, statut dont il s'enorgueillit. Le procès n'amène guère de surprise, les faits étant reconnus et regrettés, même si Déma tente de réfuter la préméditation. Quand j'ai compris que ma maîtresse allait me quitter, je suis devenu comme fou. J'ai saisi alors un couteau qui traînait là, à côté du lit. Je voulais juste lui faire des estafilades, sans plus. Mais étant très myope, j'ai frappé plus fort que je ne voulais et au mauvais endroit. Le président Berry fait une moue dubitative et oppose à cette explication simpliste la présence du fameux petit agenda. Outre l'inscription confondante au jour du meurtre, il faut que je lui fasse son affaire. Figure aussi les noms de 36 maîtresses qu'il a eues depuis son arrivée à Agen. Pour chacune d'entre elles, des annotations sur leur physique, les performances et le plaisir qu'elles lui ont procuré. Un vrai romantique, ce Déma. Quand le commissaire Collard vient dire à la barre que le grand désordre trouvé dans la chambre était le signe d'une lutte, preuve que la victime avait probablement cherché à se défendre, circule alors devant les jurys le couteau ayant servi au meurtre, sur le manche duquel ils peuvent lire « Vendetta Corse », ce qui fera réagir vertement le président. « Il n'est pas supportable, s'écrie-t-il, que fussent transportés en Gascogne les mœurs du maquis !» Face à la charge, Déma baisse la tête et son avocat fait mine de fouiller dans son dossier. Ce courroux présidentiel n'augure rien de bon. Quand le docteur Richard, le médecin légiste, viendra à son tour dire que le prévenu n'était pas ce jour-là sous emprise alcoolique et qu'il n'a pas trouvé chez lui de traces héréditaires de maladie mentale, on peut craindre le pire pour Déma, et ce d'autant que l'accusation va produire des témoins explicites. Un certain Moll viendra affirmer, sous la foi du serment, que Déma lui aurait dit, quelques jours avant le drame, « Si elle me met les cornes, je la saignerai, c'est la garce !» Raymond Gélas vient, lui, rapporter que Déma se présentait toujours comme une victime de l'amour. Pour Jean Ruès, Déma est simplement un maboule. Pas bon du tout, tout cela. Vraiment pas bon. Quand l'avocat général de Hauteville se dresse pour prendre ses réquisitions, Déma pâlit un peu quand celui-ci le qualifie d'érotique, atrabilaire et violent. Meurtre avec préméditation, c'est un assassinat. Et pour cette qualification criminelle, le code pénal prévoit maximalement la peine de mort. Sans doute qu'à cette époque, la justice avait été clémente aux jaloux et peut-être aussi aux poètes, puisque l'accusation ne demandera qu'une condamnation pour meurtre. Galvanisé par la modération du parquet, Maître Fauvel, son avocat, tentera d'établir l'irresponsabilité de son client. Un jaloux pathologique, entrant dans la catégorie des demi-fous, comme les qualifie l'éminent professeur Grasset de la faculté de médecine de Montpellier. Déma interprète tout en mal et se sent persécuté par les femmes. Sa place, messieurs les jurés, est dans un asile d'aliénés, pas en prison, martèle l'avocat, qui ne parviendra pas toutefois à arracher l'acquittement aux jurés, lesquels, après une demi-heure de délibéré, reviendront avec une peine de 10 années de réclusion criminelle, mais dispense Pierre Déma de l'interdiction de séjour en Lot-et-Garonne à l'issue de sa peine. Le gendarme poète n'a pas fini de cueillir des fleurs imaginaires dans la cour de la prison. Eh bien, chers amis, je vous propose de vous retrouver pour une nouvelle affaire criminelle sur notre antenne Radio Bulle 90.6. Je vous y attends fidèle et je sais que vous l'êtes. À très bientôt.